Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Souvenez-vous de la fontaine de Jouvence, symbole d'immortalité, une source qui promettait de restaurer la jeunesse à celui ou celle qui buvait ou se baignait dans ses eaux. Je ne vous promets pas la fontaine de Jouvence ce matin, mais nous allons explorer les promesses que certains appellent la santé bleue, un tout nouveau champ de recherche et de pratique, prévenir et soigner grâce aux multiples bienfaits du contact avec l'eau douce ou de mer. Et aux activités aquatiques, bain de mer ou dans une rivière, natation, sport de glisse, plongée, thalassothérapie, cure thermale, spa, nous plongerons dans les bienfaits de l'eau d'un point de vue physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Nos experts attendent vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Racontez-nous votre rapport à l'eau. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier et fan de natation, au menu de votre chronique. Alors voilà.
Aujourd'hui, je suis un enfant émerveillé. Alors je vais vous raconter qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ARN et pourquoi cela constitue un progrès technologique de premier ordre.
En tout cas, vous êtes d'humeur très badine ce matin. Hein, bon, allez, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
J'ai l'impression que l'eau me fait un câlin. Il y a un côté maternant.
Les chercheurs ont démontré que l'eau possède un véritable pouvoir sur notre organisme.
On a oublié toutes les thérapies naturelles de base préventive.
Eau douce, océan et même eau virtuelle, l'environnement bleu préviendrait les troubles anxieux, les addictions, l'obésité.
Quand j'ai commencé le surf, je n'arrivais plus à marcher. Puis en très peu de temps, réussir à progresser.
Jusqu'où ces découvertes nous aideront-elles à repenser le monde ?
Écoutez comment vous êtes en relation avec la mer et ce que la mer vous donne.
Bonjour Pascal Derme.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, on vient d'entendre un extrait de votre documentaire « À quoi ?» et vous publiez chez Massot Éditions un livre très intéressant et de surcroît bien écrit, « La santé bleue, la nouvelle médecine de l'eau ». Bonjour docteur Marie Pérez-Siscar.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin et président du syndicat professionnel France Thalasso et vous présidez un complexe Thalasso, c'est ça, à Bagnols-sur-Mer ?
Absolument, oui, oui.
Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos plus grands historiens, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. On vous doit de grands livres consacrés au corps, à la beauté, à l'hygiène du corps. Et vous avez notamment publié « Histoire des pratiques de santé » chez Point. Alors Pascal Derme, l'eau est le seul élément à partager une symbolique commune à toutes les civilisations depuis des millénaires. C'est le premier élément à l'origine de la vie dans de nombreuses mythologies.
Oui, c'est le premier élément de la vie, c'est l'élément qui est originel, c'est celui qui c'est l'élément du chaos, parce que l'eau c'est aussi la mort, c'est la destruction, c'est le déluge. D'où renaît le nouveau, d'où renaissent peut-être la santé et la jeunesse, on peut toujours rêver. Et c'est aussi un élément qui nous constitue à plus de 70%. Donc c'est l'eau, c'est la vie, mais c'est d'abord et notre vie. Et surtout, j'allais dire surtout, mais en fait non, parce qu'on la partage avec les plantes, les animaux et le monde entier. Donc c'est l'eau, c'est notre vie et c'est notre corps. Et voilà, on va le voir, notre cerveau, notre cœur. Et...
Georges Vigarello, l'eau a toujours suscité des sentiments très ambivalents chez les humains.
Voilà, exactement. Je ne voudrais pas être ici à contre-emploi et en quelque sorte opposé à ce désir absolument évident que l'eau peut représenter. Mais c'est vrai que dans l'histoire... on voit des proximités et des distances. Alors, proximité, on peut remonter aux Romains, bien entendu, mais contentons-nous de parler du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les étuves sont extrêmement importantes. À l'époque de Saint-Louis, il y a 22 étuves à Paris. Et ces étuves, que représentent-elles ? Elles représentent précisément le plaisir de l'eau, c'est-à-dire le fait d'éprouver une sorte de satisfaction, de bien-être, avec de surcroît, dans la mesure où l'eau favorise la nudité, de surcroît des tendances un petit peu transgressives, présence de la prostitution dans les étuves, présence de la violence, etc. Et du coup, les étuves parisiennes se trouvent progressivement condamnées à partir du 13, 14, 15e siècle. À quoi s'ajoute le fait que la peste survenant en France en 1348 entraîne des craintes. Alors ces craintes, elles ne surgissent pas immédiatement, mais lentement, l'idée est la suivante. Après tout, l'eau, surtout l'eau chaude, qui ouvre nos pores, présente une vulnérabilité de notre propre corps. Et le venin qui circule dans l'air, qui est le venin de la peste, qu'on connaît mal d'ailleurs, risque de pénétrer le corps. Qu'est-ce qui se passe alors? Mais il se passe, de la part des médecins, de la part des notables, de la part des responsables, des échevins, etc., l'idée que les étuves peuvent être dangereuses. Et que se produit-il? Ben, insensiblement, les étuves s'effacent. Et que se produit-il plus longuement et plus largement? Ben, une crainte de l'eau. Et vous avez à ce moment-là, évidemment, ça nous surprend considérablement parce que c'est très loin de notre propre sensibilité. Vous avez à ce moment-là des règlements, je pense en particulier au règlement de l'école de Jacqueline Pascal, qui est la sœur de Blaise Pascal. Vous avez des règlements qui disent, le matin, ne consommez pas trop d'eau, un petit pot dans la bouche, ne vous passez pas de l'eau sur le visage, parce que ça peut entraîner des fluxions. En plus, l'été, ça peut créer du hâle, donc votre peau va devenir brune alors qu'il faut une peau blanche, etc. Et à ce moment-là, vous voyez véritablement une sorte d'appréhension qui est extrêmement distante de nous et qui nous place face à des exemples. Moi, je vous cache pas, quand j'ai travaillé là-dessus, des exemples auxquels je ne croyais pas. Je vous en cite un. La princesse Palatine. Eh bien, elle circule en carrosse, en traversant en plein été, des parties qui sont poussiéreuses, etc. Elle arrive avec un visage plâtré à Versailles et avec le corps transpiré. Notre réflexe à nous, le bain.
Oui.
Pas du tout, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de baignoire, pas du tout. Alors, elle se lave un petit peu le visage pour enlever, je lisais ça encore récemment dans Saint-Simon, elle se lave un petit peu le visage pour enlever la présence de la poussière, et elle change de linge. Et c'est là que l'on voit, j'insiste un instant, c'est là que l'on voit quelque chose qui est fondamental. La disparition de l'eau ne fait pas disparaître la propreté, mais au contraire, vous avez parfois une accentuation de l'exigence de propreté qui passe par le linge.
Et à l'inverse de la princesse Palatine, la grande majorité d'entre nous se réjouit à l'idée de prendre un bain, une bonne douche, à nous retrouver face à la mer, à un lac, à une rivière, à nager, Pascal Derma.
Oui, c'est vrai que nager, c'est assez récent comme compétence. Moi, j'ai appris ces machines à bain du docteur Russell en 1850, pour rester un petit peu dans l'histoire. Donc, c'est des personnes qui étaient tractées au large à Brighton, en 1850, et une fois qu'elles étaient au large, on les plongeait brutalement dans une eau glaciale, comme savent le faire les Anglais. Et ça, c'était la stratégie du choc. Donc, on était loin, en effet, du plaisir, on était loin de l'aptitude, et on était sur de l'eau froide. On espérait qu'avec ce choc de l'eau froide, dans des cages en bois, les gens allaient avoir un choc psychologique et allaient pouvoir régler des problèmes comme la rage ou la folie.
Marie Pérez, Siscar.
Oui, en fait, c'était les tout débuts de la thalassothérapie, finalement. C'est vrai que la thalassothérapie, c'est un phénomène franco-français, mais finalement, ça a débuté plutôt en Angleterre, justement, avec ce type de bain. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était de mettre les gens au contact de l'eau de mer. Mais très, très loin de ce contact froid, glacial, qui pouvait faire imaginer. Enlever certaines maladies. De nos jours, l'eau de mer, elle est utilisée chaude. Imaginez-vous allongé, une petite pluie d'eau de mer chaude qui vous caresse, le terme est important, le corps, et on vous masse sous cette pluie. Donc non seulement vous aurez les bienfaits de l'eau de mer, mais vous aurez le confort du toucher et vous aurez l'agréable sensation d'être dans l'eau. C'est ça qu'on va chercher maintenant, dans l'eau. Et effectivement, vous parliez de la natation. Le mouvement dans l'eau rend le corps libre. Quelqu'un qui a des douleurs articulaires, n'est-ce pas, cher confrère, vous le mettez dans un bain d'eau, il est porté, il n'a plus mal à ses articulations. D'autant plus dans une eau de mer, dans la mesure où l'eau de mer vous porte encore plus que les eaux non salées. Donc c'est vrai que cette eau nous a suivis pendant des décennies, pendant des siècles, et continuera à nous suivre. Et je disais tout à l'heure que c'est excellent d'aller dans l'eau de mer.
Et les humains connaissent les pouvoirs thérapeutiques des eaux depuis des millénaires. Pascal Derme, souvenons-nous des pharaons égyptiens qui avaient l'habitude de prendre plusieurs bains parfumés aux huiles essentielles pour renforcer leur santé. Au IVe siècle, avant notre ère, le père de la médecine occidentale, Hippocrate, utilisait l'eau de mer pour soigner les affections dermatologiques, rhumatologiques ou les lombalgies. Et au Japon, on fréquente depuis des siècles les onsen, j'espère que je prononce bien.
Les onsen,
ce sont ces bains traditionnels de sources chaudes absolument extraordinaires.
À ciel ouvert, sur des paysages magnifiques.
Et Georges Vigarello, les Grecs construisent des bains à côté ou sur des sources thermales, mais ce sont les Romains qui ont popularisé ces bains d'eau chaude. méthode qu'ils vont baptiser Thermes, c'est ça ?
Oui, ce sont les Romains. Les Grecs, en fait, ne fréquentent pas énormément. Hein. Vous avez avec eux des sortes de cuves, mais il n'y a pas de plongée dans l'eau, alors que chez les Romains, oui. Mais ce sur quoi je voudrais insister, pour qu'on comprenne quand même les choses, c'est que nous sommes aujourd'hui porteur d'une sensibilité qui n'était pas la sensibilité d'hier. Si je reprends l'exemple très juste donné précédemment concernant les chocs que la mer peut provoquer. Si je reprends cet exemple. D'abord, remarquons que la mer n'est pas fréquentée au XVIIe et au XVIe siècle. Elle commence à être fréquentée au début du XIXe ou à l'extrême fin du XVIIIe. Avec une idée qui n'est pas la nôtre, selon laquelle les fibres du corps doivent être renforcées et durcies. Qu'est-ce qui durcit ? C'est le froid. Et donc à ce moment-là, vous commencez à avoir une fréquentation certes hygiénique, mais qui n'est pas la nôtre, de la plage, si vous voulez. Je pense à la duchesse de Berry à Dieppe, qui se fait effectivement, c'est très juste comme exemple, plonger dans l'eau et retirer avec une corde. C'est à des années-lumière, si je peux dire, de notre propre sensibilité. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Mais c'est le corps qui a vécu autrement. C'est le corps qui passe par le sentiment qu'il y a du stress, qu'il y a de la tension, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'excitation. Et il faut faire baisser cette tension. Qu'est-ce qui peut faire baisser cette tension ? C'est l'eau. Donc vous voyez, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que nous sommes confrontés à des sensibilités qui sont historiques, qui sont différentes. Et effectivement, ce qui nous paraît évident aujourd'hui, ne l'était pas dans le temps.
Docteur Pérez Siscar.
Oui, en fait, on parle de ces chocs, mais vous savez qu'il y a des gens qui viennent en thalasso, enfin, c'est vraiment une expérience pour le confort, la détente, se faire prendre en charge, globalement, parce qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se sensibiliser, d'avoir des paysages magnifiques. Toutes les thalassos sont construites dans des destinations à pleurer, tellement c'est beau. Hein. Le littoral, c'est dépollué. Mais figurez-vous qu'il y a aussi des personnes qui viennent pour perdre 3 mm de tour de cuisse, d'enlever d'un peu de cellulite. C'est vrai que ça fonctionne et on le fait avec l'eau très froide. On a des appareils qui envoient des jets d'eau froide et chaude. On peut violenter un petit peu le corps, mais parce qu'on l'a décidé. Et finalement, ça devient un confort aussi.
C'est très doux. C'est à la pesanteur. On se sent léger. On flotte. C'est très agréable.
Douche à jet. Rééducation en piscine avec un kinésithérapeute, les soins sont nombreux. Et comme il s'agit d'une médecine curative, ces soins peuvent être remboursés par la Sécurité sociale.
Ça fait ma 4e cure à Milly-les-Bains. Donc je fais la cure pour traiter tout ce qui est lombalgie, coxarthrose, arthrose. On ressent les effets de cette cure à peu près pendant 9 mois. 9 mois sur l'année, donc sans pratiquement ni de douleur, ni de gêne, ni de raideur.
Même si le couple profite de ces après-midi de libre pour visiter la région, ce ne sont pas tout à fait des vacances.
Surtout la baignoire qui me fatigue. Quand je sors, je suis vraiment fatiguée. Bon, et après on se repose un petit peu, et puis ça va mieux, on profite quand même de la journée.
Avant leur départ, les curistes dressent toujours un bilan médical avec un professionnel de santé. Sachez que pour une même pathologie, une seule cure peut être remboursé par an.
Extrait de la quotidienne en février 2017. Alors, docteur Marie Pérez-Siscar, c'est quoi exactement le thermalisme ? C'est une technique de soins thérapeutiques qui utilise une eau de source souterraine naturelle, c'est ça ?
En fait, c'est pas une technique. Le thermalisme, c'est l'utilisation d'une eau naturelle, souterraine, chauffée. En fonction des lieux où elle existe, cette eau souterraine, elle est utilisée. Elle peut être transformée, c'est-à-dire mise dans un bain ou dans un jet, etc. C'est une eau naturelle qui est utilisée pour ses vertus thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a, on sait qu'il y a, pas on imagine bien sûr, on sait qu'il y a des minéraux, des oligo-éléments dans l'eau thermale, comme dans l'eau de mer, par exemple. Mais c'est vrai qu'on va utiliser ces minéraux à des fins thérapeutiques. Il y a 109 centres de thermaux en France. Sur ces 109 centres thermaux, c'est très difficile de dire lequel sera plus pour traiter telle ou telle chose, mais c'est le contenu chimique de cette eau, à l'instar de l'eau de mer, qui va apporter quelque chose. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est parce que c'est une eau thermale qui contient des éléments. Et ces oligo-éléments, ces vitamines, ces minéraux contenus, je le répète, j'insiste, dans l'eau thermale et dans l'eau de mer, n'existent pas forcément dans l'eau du robinet. Ça ne veut pas dire que si on se fait faire un massage avec une eau du robinet, ça va être mal. Mais c'est simplement, on ne s'attend pas à des vertus à proprement parler, qui sont, elles, prises en charge par la sécurité sociale en thermalisme.
Baptiste Beaulieu, qui peut prescrire une cure thermale? Vous, vous en prescrivez, par exemple?
Alors oui, ça m'arrive dans des cas très particuliers, notamment pour toutes les affections dermatologiques, évidemment, eczéma, psoriasis, tout ce qui est maladie atopique, et également pour toutes les affections rhumatologiques, notamment les affections rhumatologiques de longue durée. Je pense aux arthroses, les arthroses digitales, la lombarthrose, et évidemment les spondylarthrites ankylosantes, les polyarthrites rhumatoïdes. En fait, c'est idéal pour les patients qui souffrent de maladies chroniques.
Et c'est remboursé par la Sécu, oui, ou par la mutuelle?
Ça dépend de la mutuelle, mais certaines mutuelles prennent en charge.
Et combien de temps dure en moyenne une cure thermale? C'est 15-20 jours, c'est ça?
Oui, à peu près.
Le remboursement se fait sur 18 jours. Et c'est vrai qu'il faut bien faire la différence, parce que même si nos techniques sont similaires, la thalasso n'est pas remboursée du tout.
Dans quelques instants, vous verrez les bienfaits de la cure thermale sur la fibromyalgie, notamment, et puis vous verrez également les bienfaits de la thalassothérapie, des bains de mer, mais également de la natation et des sports de glisse. En attendant, on écoute Otis Redding. Respect. Reading interprété Respect.
Elle est froide?
Grand bien vous fasse.
On fait la petite grenouille, on commence par la petite grenouille.
La
petite grenouille, on y va. Hein?
Ali Rébéi.
Voilà, voilà, exactement. On avance comme ça. Hop. Elle est contente, la petite grenouille. Elle se détend les épaules, la petite grenouille.
Sur France Inter.
10h25 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits de l'eau et des activités aquatiques sur notre santé, sur notre bien-être. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Pascal Derme, vous publiez La Santé Bleue, la nouvelle médecine de l'eau. C'est quoi exactement la santé bleue, ce nouveau champ de recherche et de pratique?
Oui, alors c'est un nouveau champ, vous faites bien de le préciser, que j'ai découvert en étudiant les bienfaits de la nature sur la santé, les questions d'interdépendance entre la santé humaine et la santé des écosystèmes naturels. J'avais commencé par les arbres, et donc là, j'ai poursuivi mes recherches et je suis tombée sur ce terme, Blue Health en anglais, qui en fait constitue un programme de recherche européen de grande envergure qui rassemble 90 chercheurs qui sont des biologistes marins, des généralistes, des psychologues, voilà. Donc c'est le corps dans toutes ces dimensions, le corps et l'esprit. Il y a aussi des experts en écologie et des experts en qualité des milieux. Et toutes ces personnes travaillent sur les relations, les interrelations entre les espaces bleus. Donc, ils ont précisément délimité ce champ comme étant des espaces de lacs, de rivières, de littoral, eau douce et salée, mais excluant tout ce qui est construit par les hommes, donc pas les piscines et pas les centres de thalassothérapie, pour avoir vraiment un champ spécifique. Et ils ont mené des enquêtes, une centaine d'études scientifiques publiées. Parfois, elles sont des études qui sont randomisées, donc double aveugle avec des groupes témoins. Donc, c'est vraiment très sérieux, sur 18 000 Européens. Et le nid de toute cette santé bleue, Blue Health, ça se trouve en Angleterre, à Exeter, où il y a des personnes qui ont lancé vraiment ces recherches. Il y a un centre d'études sur la santé humaine et l'environnement, ce qui est assez rare en fait. Il y en a aussi à Hambourg, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc ce qu'ils étudient et ce qu'ils ont montré, c'est que le fait de vivre à moins de 5 ou 10 kilomètres du littoral, concrètement, peut servir de prévention. Ça remplace pas la médecine allopathique, j'insiste. C'est vraiment en prévention. C'est un beau mot, le mot prévention en santé. Et en prévention de toutes les maladies de civilisation, que sont l'obésité, on en parlait avec le sport, la portance de l'eau, le poids du corps est divisé par 10, la sclérose en plaques. J'ai eu un cas très, très merveilleux de Céline Rouillard, qui est devenue championne de parasurf après 4 ans de surf, alors qu'elle ne marchait plus. Elle est passée d'un indice de handicap de 7 à 2. On parle aussi de santé psychologique, de santé mentale, donc dépression, état anxieux. Donc toutes ces maladies de syndrome de stress post-traumatique, on y reviendra peut-être, donc de stress, toutes ces maladies dites de civilisation, qui sont liées à des modes de vie sédentaires, à un état de stress permanent, chronique, peuvent être atténuées par la santé bleue.
Et on peut se référer à une méta-analyse sur la santé bleue publiée en 2018. Il reste encore tout de même des zones d'ombre, Pascal Derme, pas d'études épidémiologiques sur le long terme et manque de données, par exemple, sur les pays en développement.
Absolument, tous les champs ne sont pas couverts. Ils se sont beaucoup intéressés aussi aux vétérans de guerre. Donc c'est du kayak thérapeutique, du canoë thérapeutique, de la plongée thérapeutique, on y reviendra peut-être. Enfin voilà. Donc c'est les activités sportives en bord de l'eau ou le simple fait aussi de marcher et de respirer les oligo-éléments, parce que la marche n'est pas du tout une activité mineure quand elle est pratiquée avec des ions négatifs à portée de nez et de corps. Et c'est une expérience optimale. L'eau, c'est une expérience immersive optimale. Donc vous parliez de caresser, on est caressé, on est enveloppé, on est bercé, on est porté. On ne fabrique pas de sels minéraux dans l'eau de notre corps. Donc voilà, là, on en a.
On parlait des caresses d'eau avant le premier CD, Georges Vigarello. Je rappelle que vous êtes l'un de nos plus éminents historiens. Que vous inspirent ces nouvelles pratiques de santé avec votre regard historique?
Écoutez, au moins deux choses. La première, c'est que je suis évidemment très sensible à ce discours savon. Je trouve qu'il apporte une objectivité et que, du coup, il a indiscutablement une efficacité. Ça, c'est le premier point. Donc, que je sois bien entendu, je suis absolument pas critique, bien au contraire, je suis empathique à l'égard de ce type de pratique. La deuxième remarque, c'est ma propre sensibilité historique, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ma sensibilité historique? Elle me dit, d'une part, que le thermalisme, il naît vraiment dans sa dimension importante au XIXe siècle. Évidemment, il existe avant, mais il naît au XIXe siècle.
Au Second Empire.
Avec l'installation de centres, avec l'accroissement de ces centres, des fréquentations de 10 000 personnes, par exemple, à Évian, 100 000 à la fin du siècle, accentuées sans doute par la possibilité du transport, facilité des échanges, etc. Et que me dit ce thermalisme du XIXe siècle? Il me dit qu'il s'intéresse à des données qui sont physiologiques. C'est-à-dire qu'on va au thermalisme, parce qu'on a des difficultés respiratoires, parce qu'on a des difficultés digestives, etc. Que me dit le thermalisme aujourd'hui? Le mot différent, thalassothérapie. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Que me dit-il? Il me dit qu'insensiblement, c'est quand même un versant psychologique qui devient plus important. C'est-à-dire une recherche de bien-être, une recherche de détente, une recherche d'être enveloppé. Donc n'oublions pas que nous sommes passés de données qui sont éminemment physiologiques, même si ces données physiologiques demeurent importantes et sont marquantes, nous sommes passés des données physiologiques à des données qui sont psychologiques. Nous n'oublions jamais. Nous avons besoin d'un autre milieu. Nous avons besoin d'une sensibilité qui nous atteint psychologiquement différemment. Et c'est cela que je voudrais souligner une fois encore. Pour moi, l'eau, elle est historique.
Bonjour professeur Grégory Nino.
Bonjour Ali.
Vous dirigez l'Institut Desbrest d'épidémiologie et de santé publique de Montpellier. Nous vous avions reçu jeudi dernier pour votre livre « Sans médecine douce validée par la science ». Alors, est-ce que la recherche scientifique a évalué les cures thermales comme une intervention non médicamenteuse efficace dans certaines pathologies?
Je me permets tout d'abord de saluer Georges Mégarello. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez évoqué sur l'approche historique est importante, mais il me semble quand même, dans le débat que vous menez, de différencier la thalassothérapie, qui est une pratique potentiellement culturelle, et de tourisme, d'une pratique qui va être effectivement médicale. Et vous savez que l'Académie de médecine a notamment un groupe spécifique dédié aux thérapies complémentaires, thermalisme et aux terres minérales. Et effectivement, il y a, lorsqu'on regarde la littérature, donc une cure thermale dédiée à la fibromyalgie, par exemple, sur lequel cette fibromyalgie touche entre 1 et 2% de la population en France. Et en fait, une méta-analyse montre, avec 11 essais randomisés contrôlés, qu'il y a un impact significatif de cette cure thermale. Mais en fait, elle associe non seulement l'eau, et les bains de boue, des massages, de l'éducation thérapeutique et de l'exercice. Et on a exactement les mêmes données, si vous voulez, sur l'arthrose, et en particulier la gonarthrose, donc l'arthrose du genou, sur lequel elle va toucher plus de 65% des personnes de plus de 65 ans. Et là encore, il y a des essais cliniques qui vont démontrer l'efficacité sur la douleur, sur la mobilité, jusqu'à un an après cette intervention. Donc, je pense qu'il est important de bien parler d'intervention non médicamenteuse, donc à visée thérapeutique, et par contre, de laisser peut-être les pratiques culturelles. Mmh. C'est bien beau de se baigner à le 1er janvier à Montpellier, mais il fait quand même très 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 froid et chacun a peut-être envie d'utiliser l'eau comme il le souhaite.
Alors je rappelle que la fibromyalgie, c'est un syndrome qui inclut des douleurs diffuses sans cause apparente, des troubles cognitifs et du sommeil et de nombreuses plaintes corporelles. Pourquoi une cure thermale peut-elle aider à soigner une fibromyalgie? En quelques mots, professeur Nino.
En quelques mots, professeur Vigarello l'a dit, il y a un impact qui est à la fois musculaire, il y a un impact qui est neuromusculaire, mais il y a aussi un impact psychologique. Et en fait, le patient gère mieux sa douleur et a une autonomie physique supplémentaire et qui lui donne finalement une confiance à bouger plus et il se remet finalement à avoir une place spécifique de cette maladie, strictement qu'une place et pas toute sa place. Et en fait, il gère mieux sa maladie, pour être très schématique.
Docteur Pérez-Siscar.
Oui, effectivement, puisque je représente aussi l'eau, mais aussi la thalassothérapie, il est important de rappeler que les pratiques en thalassothérapie ressemblent beaucoup aux pratiques en thermalisme. C'est vrai que si la prise en charge est globale, elle est aussi psychologique. Et on parlait tout à l'heure d'une personne d'une centaine de kilos qui a de l'arthrose du genou. Je vous promets que si vous la mettez à faire une cure, ne serait-ce de 3 ou 4 jours, pas forcément faire 15 jours, dans de l'eau de mer, que vous lui mettez de la boue, que vous la massez, que vous la tranquillisez, que vous la faites bouger dans l'eau de mer où elle ne déplace pas du tout son poids, les douleurs vont être limitées. Elle aura exactement, comme vous disiez, cher professeur, confiance en elle, elle repart, et elle a moins de douleurs et moins de prises médicamenteuses. Donc c'est vrai que l'eau, bien pratiquée, effectivement, la thalasso, c'est du loisir, c'est du tourisme, parce que la destination est indéniablement intéressante. Les gens viennent balader, ils vont faire du paddle en plus que de la thalasso. Mais n'oublions pas qu'on a quand même des oligo-éléments, qu'on a de la boue, qu'on a des algues. Et ça, ça rentre dans le cadre aussi du traitement, entre guillemets. On dirait qu'on est plus préventif, mais on a régulièrement des personnes qui ont de l'arthrose ou des spondylarthrites ankylosantes qui sont devenues adeptes des thalasso. Et quelque part, j'ajoute un petit côté peut-être bizarre, mais j'ai la sensation de me dire que lorsque les gens payent, chez nous, ce qui se passe, je ne dis pas qu'il faudrait qu'ils payent partout, hein, pas du tout. Mais lorsque les gens payent, j'ai cette sensation qu'ils ont envie que ça se poursuive aussi longtemps, si bien qu'en repartant de chez nous, les personnes arthrosiques ou les personnes avec des pathologies un petit peu lourdes, y compris de la fibromyalgie, repartent avec des conseils, des exercices, des cristaux à mettre dans le bain, tout simplement pour prolonger le plus longtemps.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, vous parliez de payer. Est-ce que la thalassothérapie, ce n'est pas une thérapie pour privilégier? Ça reste assez coûteux et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Alors, je voudrais balayer d'un grand geste, d'un grand revers de bras, ça. Écoutez, je ne sais pas combien on imagine que ça veut dire cher ou pas cher. Le petit exemple que je prends souvent, lorsqu'on voit des reportages à la télévision de thalassothérapie, on voit les journalistes qui vont dans des endroits fabuleux, des 5 étoiles, luxe, avec des chambres de 70 mètres carrés, et vous voyez des personnes qui sortent de là, qui sont en peignoir super extra épais, qui vont dans des piscines fabuleuses, d'eau de mer, bien entendu. On va montrer l'hôtellerie. C'est l'hôtellerie qui va coûter cher. Cher. En fonction des moyens des gens. Vous savez que vous pouvez commencer à faire un soin pour 40 euros. C'est moins cher qu'une coupe de cheveux chez le coiffeur. 40 euros. Moi, je sais que à Banyuls, par exemple, moi, j'ai des cures, 5 jours de cure, 6 nuits en demi-pension. C'est pas un hôtel, c'est un petit 4 étoiles, mais pour moins de 900 euros la semaine. Donc, c'est abordable.
Pascal Derme.
Alors, il y a aussi quelque chose qui ne coûte pas très cher, c'est la surf-thérapie. C'est un mot que j'ai découvert, en fait, dans la bouche du docteur Guillaume Barouk à Biarritz. Alors, c'est vrai qu'il y a, un terreau fertile, entre guillemets, de ces médecines bleues, thérapies bleues, qui sont en train d'émerger. Hors thermalisme et thalassothérapie, qui sont des villes d'eau. Donc à Biarritz, le docteur Guillaume Barouk lui prescrit, en fait, des ordonnances bleues. Et donc, il se fait l'intermédiaire entre des patients qui ont donc soit des maladies invalidantes, comme la sclérose en plaques, ou des maladies auto-immunes, etc., et des personnes qui ont juste des rhumes, des problèmes physiques. Et ensuite, il se fait l'intermédiaire entre des associations sportives qui vont faire le suivi de ces personnes. Et il les reçoit régulièrement en cabinet pour faire des évaluations. Et moi, j'ai assisté à, notamment, on a filmé une personne qui avait une dépression sévère, qui disait qu'en 12 ans de psychothérapie, elle avait eu moins de résultats qu'en allant nager tous les matins dans l'eau. Et donc, c'est quand même des éléments à prendre en compte. Donc ça, c'est pas une étude clinique, c'est une expérience. Mais par exemple, sur la plongée post-traumatique, on y reviendra peut-être, là, il y a des études cliniques.
Bonjour Martine, bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez la chance d'habiter sur la côte d'Émeraude.
Voilà, j'ai la chance d'habiter sur cette merveilleuse côte d'Émeraude.
Je vous envie, je vous envie, Martine.
Oui, c'est très beau aujourd'hui, ce qui fait mentir le dicton. Voilà.
Alors, quels sont les bienfaits de vos marches sur la côte d'Émeraude, de vos bains de mer? Racontez-nous un petit peu.
Ils sont multiples. C'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur d'avoir découvert cette activité il y a maintenant 2 ans, que je pratique deux fois, voire 3 par semaine à la belle saison, mais là j'y vais cet après-midi, j'y vais par tous les temps, et quand je n'y vais pas, j'ai l'impression que mon corps le réclame, ça me manque. Ça me manque, ça devient presque une activité addict, en fait, pour moi, en tout cas. Et ça a été une véritable thérapie, parce que je le fais en groupe, hein, donc il y a déjà le phénomène de groupe. En fait, dans l'eau, on redevient des enfants, voilà. Et ça a été une thérapie lorsque j'ai perdu mon compagnon il y a quelques mois. J'ai recommencé le longe-côte dans les jours qui ont suivi. Et je pense que ça m'a sauvée peut-être. Ça m'a empêchée de m'effondrer. Et je tiens toujours grâce à l'eau, grâce aux amis avec qui je le fais. Voilà. Je le recommande à tout le monde, à condition de le pouvoir, évidemment.
Pascal Derme, très beau témoignage de Martine.
C'est magnifique. C'est vrai que je vous envie, moi aussi, qui adore tellement la Bretagne, qui en suis un peu loin aujourd'hui.
Bienvenue au club.
C'est vrai qu'il y a une explication qui a été proposée par des chercheurs britanniques sur les effets de cette natation en eau froide, hein, quand même. Donc, qui est un peu une explication qui est une convergence de plusieurs éléments. Il y a le lien social, vous l'avez souligné, le fait d'aller en groupe. Il y a l'estime de soi qui augmente parce qu'on va tous les jours, malgré les intempéries, nager ensemble. Il y a un effet sur le système nerveux autonome, peut-être qu'un médecin pourra... Donc le nerf vague est réaligné. Ça joue aussi dans la plongée thérapeutique. Donc il y a un rééquilibrage du système nerveux autonome avec une amplitude meilleure du système parasympathique, hein, qui est l'effet calmant du corps. Et il y a aussi une sécrétion d'hormones du plaisir naturel, sérotonine, dopamine. Et ça, c'est donc tous ces facteurs, l'estime de soi, le lien social, le côté hormonal, le cocktail euphorisant hormonal, plus la régulation du système nerveux autonome avec cette respiration ample qu'on peut faire dans l'eau, sans compter tous les oligo-éléments. Voilà, donc c'est une fontaine de jouvence, on peut le dire quand même.
Et puis tout le corps est impliqué, hein, dans la relation à l'eau, nos articulations, nos organes internes, notre peau, nos tissus, nos cheveux sont immergés dans cette masse liquide, et puis plaisir variable, évidemment, selon la température et les mouvements de l'eau. Georges Vigarello.
Écoutez, moi je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, et je pense qu'on peut résumer ce phénomène de la manière suivante. Ce qui a grandi dans ces dernières décennies, c'est évidemment l'exigence psychologique, mais c'est également l'exigence qui consiste à s'éprouver autrement. J'avais beaucoup travaillé sur cette question dans un livre que j'avais intitulé « Le sentiment de soi », et j'avais tenté de retracer l'histoire de la perception interne du corps. Or, cette histoire, elle nous renvoie à une exigence beaucoup plus grande aujourd'hui, portant sur le fait de s'éprouver, de se ressentir. Or, toutes les pratiques dont nous parlons, le surf, la surf-thérapie est magnifique, toutes les pratiques dont nous parlons, c'est des pratiques qui interrogent notre propre sensibilité. Qu'est-ce que c'est que le surf? C'est être attentif à ce que la vague nous dit, et à réagir, précisément, à l'information que nous donne la vague. Et je trouve que c'est très important, ce problème, à savoir, éprouvons-nous autrement, et effectivement, l'eau, aujourd'hui, est un élément qui favorise immensément ce genre de sensations.
Et puis Pascal Derme, l'ensemble des stimuli sensoriels qu'on a évoqués atteignent la moelle épinière avant de se diriger vers la zone du cerveau dédiée. C'est aussi pour ça que ça fait tellement de bien de s'immerger dans l'eau.
Oui, alors ça c'est l'esprit bleu. Donc vous faites référence à l'esprit bleu, donc d'un livre de Wallace Nichols qui effectivement a montré en fait dans ce très beau livre que l'esprit bleu, donc c'est l'esprit au contact ou pratiquant une activité dans l'eau ou au bord de l'eau. La surf thérapie c'est la marche, c'est le surf, c'est le paddle. Hein, tout dépend de nos limites corporelles et de nos envies, de notre désir d'eau, on peut dire. Eh bien cet esprit bleu au contact de l'eau est plus serein et il le différencie de l'esprit rouge, qui est celui du stress, et de l'esprit gris, qui est celui qui est très terne.
Vous montrez le studio de France Inter qui est tout rouge.
On passe de la performance au ressenti. C'est quand même très important.
Exactement.
On passe de la performance au ressenti, quand même. Autre chose.
Allez, 10h43, il est temps de retrouver la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali. Je voulais vous rappeler comment il existe deux types de vaccins jusqu'à présent. Il existait les vaccins vivants atténués, qui contiennent le germe entier, mais celui-ci a été modifié pour qu'il ne se reproduise pas comme le germe originel. Et les vaccins inactivés, qui contiennent le germe, ou une partie du germe, comme sa paroi, mais le germe est mort. En gros, on balance la carcasse dans votre sang et votre système immunitaire va produire des milliers d'anticorps différents correspondant à chacune des parties étrangères du germe. Et dans les deux cas, le corps se prend soit des millions de germes en entier, tous morts ou affaiblis, soit des millions de bouts de germes, et il va s'en suivre la production de milliers d'anticorps spécifiques à chacune des structures constitutives du germe en entier ou du bout de germe. Est-ce que vous me suivez ?
Oui.
D'accord. C'est un peu comme un videur en boîte de nuit, on lui a donné des instructions pour ne pas faire entrer le ministre des Transports, par exemple. Oui, mais à quoi il ressemble, le ministre des Transports? On va être honnête, personne ne sait à quoi ressemble le ministre des Transports. Eh bien, avec les vaccins ordinaires, c'était comme si on obligeait le videur de boîte de nuit à apprendre par cœur la totalité de ce qu'est ce ministre, pour qu'il puisse bien le reconnaître quand il se présentera. Alors, le ministre mesure 1m90, il a deux jambes, deux pieds, deux bras, une tête, des cheveux, un nez, des yeux, des sourcils, il pèse 95 kilos, il a 200 000 cheveux sur la tête, 300 000 poils sur le corps, etc., etc. En gros, votre videur doit apprendre la totalité de ce qu'est ce ministre, y compris la taille de chacun de ses cheveux, de chacun de ses poils, la position exacte de tous ses grains de beauté, absolument tout, y compris l'intérieur du ministre. La taille, la couleur de son cœur, de ses artères, de ses artérioles, de ses muscles, leur trajet, leur forme, tout. On est d'accord que c'est lourd pour le videur. C'est pareil pour votre corps. Maintenant, imaginez que vous donniez au videur juste une seule indication, mais que celle-ci soit tellement spécifique que le videur a moins de choses à retenir. Le ministre a une cicatrice en forme de papillon sur la tempe droite. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et c'est génial parce que ça fait moins de boulot quand même pour le videur, donc pour votre corps, que de devoir apprendre la totalité de ce qu'est le ministre. Tu sais ce qu'est une cicatrice, tu sais ce qu'est un papillon, c'est ça le vaccin ARN. Au lieu de balancer l'équivalent d'une montagne de matériel infectieux dans votre corps, on va injecter une minuscule partie d'une déjà minuscule partie du virus, un bout de son ARN, qui est l'équivalent d'une toute petite phrase, mais tellement, tellement caractéristique qu'il sera reconnaissable à coup sûr par le videur, c'est-à-dire votre corps. Ce bout d'ARN va être traduit en une protéine que le corps va reconnaître. Et pas n'importe quelle protéine, celle qui tapisse l'extérieur du virus. Parce que oui, pour reconnaître rapidement le virus, savoir à quoi ressemble l'extérieur, c'est suffisant. Une fois traduit, l'ARN est dégradé, supprimé par les éboueurs de l'organisme, il n'intègre pas votre ADN, puisqu'il ne rentre pas dans votre noyau cellulaire où se trouve votre patrimoine génétique et qu'il est traduit à l'extérieur de celui-ci dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Pour conclure la chronique que je voulais vous dire ce matin, c'est pourquoi Pourquoi ça constitue un saut technologique médical immense, Ali? Tout d'abord parce que la simple présence d'un ARN étranger suffit à activer la réponse inflammatoire, ce qu'on n'obtenait pas auparavant, ou alors seulement qu'avec des adjuvants. Donc, plus besoin d'adjuvants dans les vaccins ARN. Et ensuite, le ciblage immunologique est beaucoup, beaucoup plus performant. Imaginez qu'on arrive à isoler, par exemple, une protéine anormalement exprimée sur l'extérieur de cellules cancéreuses. Imaginez qu'on arrive à déclencher dans votre corps la production d'anticorps dirigés spécifiquement vers ces protéines exprimées seulement par vos cellules cancéreuses. Eh bien, on guérit le cancer, on sauve le président, on sauve le monde, on épouse la fille. Générique de fin, Ali.
Merci beaucoup, Baptiste Beaulieu, pour cette chronique très pédago à réécouter, à podcaster sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, continue à s'intéresser aux formidables bienfaits de l'eau et des activités aquatiques. En attendant, on écoute Vendredi sur mer, tiens, ça tombe bien, qui interprète le lac. Vendredi sur mer, interpréter le lac.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h49 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits de l'eau et des activités aquatiques sur notre santé et sur notre bien-être. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser une note vocale comme Virginie.
Bonjour, je m'appelle Virginie, j'habite à Brest et j'appelais pour dire que, voilà, pour ma part, je baignais... En hiver, notamment dans la mer, dans une eau entre 10 et 11 degrés. Et voilà, ça m'apportait beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. À la sortie de l'eau, je me sens toujours bien. Voilà, les bienfaits de l'eau, de la baignade en hiver, c'est quelque chose, on n'y pense pas souvent, mais c'est plutôt pas mal.
Pascal Derme, sur le témoignage de Virginie, sur les bienfaits de ces bains de mer froid, c'est reconnu de plus en plus par les études en santé bleue.
Oui, alors personnellement, je ne pratique pas. J'aime la Bretagne, mais j'aime bien les calanques de la Méditerranée. Mais je vais m'y mettre. Alors oui, il y a des études qui sont à nouveau souvent britanniques, parce qu'ils ont donc commencé ces études en santé bleue, et ils ont, à portée de main, si je puis dire, une eau très froide. Et ils ont fait des études de ce qu'ils appellent la cold water immersion. Et donc, ils ont, alors que ce soit dans des caissons, c'est-à-dire où les personnes ne bougent pas, donc il n'y a pas de mouvement, ou dans de l'eau de mer. Pour résumer, ce qu'ils montrent, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a un effet sur les hormones du plaisir, dopamine, sérotonine, il y a un effet anti-stress qui est avéré. Donc c'est normal que ces témoignages convergent dans l'idée que ça nous fait du bien, mais ça a été vérifié sur un plan physiologique, parce que le cortisol réduit drastiquement après une, et ça aussi un effet vasoconstricteur sur la circulation, bien sûr, sur l'oxygénation des organes, sur l'oxygénation aussi du cerveau. Donc ça nous aide aussi à penser, à être en meilleure santé globalement. Et il y a cet effet aussi de je le disais tout à l'heure, d'estime de soi, on en reparlait entre nous, le fait de surmonter des appréhensions. Une peur qui peut être avec des vagues houleuses, donc on surmonte la peur et on est fier de ce rapport, de ce bras de corps avec l'eau.
Bien fait également de la nage en eau libre, froide, hein, toujours de préférence, notamment contre l'inflammation chronique causée par le stress chronique, Pascal Derm.
Oui, alors ça c'est des études en cours d'un anesthésiste de Brighton, Mark Harper, qui est en train d'étudier, il s'est rendu compte en tant qu'anesthésiste à l'hôpital que les personnes qui l'envoyaient. Donc il a fait une étude qui n'est pas tout à fait une étude randomisée, mais qui est quand même une étude de recherche. Les personnes qui l'envoyaient nager avant les opérations, avant de les endormir, supportaient mieux l'anesthésie, étaient plus relax, etc. Donc il est en train de mener une étude avec à la fois des questionnaires, des paramètres physiologiques de cortisol, de stress, pour voir ce qui se passe pendant ce moment. Donc résultat dans quelques mois.
Pascal Derm, tout à l'heure, vous avez évoqué la surf-thérapie. Petite précision, c'est l'une des disciplines de recherche les plus reconnues en santé bleue. Alors, la surf-thérapie inclut de nombreuses disciplines sportives pratiquées en bord de mer, sur l'eau ou sous l'eau, comme la natation, la marche sur sable, le paddle, le body surf, le kitesurf, le surf.
Le kayak, le canoë. Ouais. Oui. Ouais. Toutes ces activités qu'on peut, selon notre condition physique, pratiquer. Et surf thérapie, ça veut dire que c'est prescrit ça peut être prescrit, ça commence à être prescrit, même en France, je dirais, par des médecins. Qui adapte en fait ces activités à vos pathologies. Par exemple, j'ai assisté à une séance où la personne avait une cardiopathie, donc il lui a prescrit une activité de paddle régulière parce que le paddle peut muscler la cage thoracique et donc pouvoir continuer non pas guérir mais atténuer ou accompagner en fait le traitement.
Et c'est une excellente manière, cette surf thérapie, de lutter contre les maladies dites de civilisation liées à un mode de vie urbain sédentaire, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, état dépressif ou surpoids. Docteur Marie-Pérez Siscard, sur cette surf thérapie.
Oui, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, on remet les personnes à respirer, même dans l'eau, respirer dans l'eau. Quand vous avez fait le mouvement, vous avez la cage thoracique qui est complètement contractée, les tensions musculaires au niveau des épaules. D'ailleurs, si on dit à tous les auditeurs de baisser les épaules, ils les baissent, ils en ont encore sous le coude. C'est-à-dire qu'on est tendu sans arrêt. Donc rien que le fait d'ouvrir la cage thoracique va permettre d'aller dans le sens de la prévention santé. Mmh. On parle de prévention santé, comme le disait. Parce qu'on n'est pas en train de guérir quelqu'un qui a une cardiopathie, exactement, mais on fait de la prévention santé et on accompagne les patients avec certaines maladies.
Vous êtes resté avec nous, professeur Grégory Nino. Votre regard sur cette surf-thérapie ?
Je crois qu'on est vraiment dans un mouvement où la recherche va être indispensable. Vos experts ont évoqué le fait qu'il y a des mécanismes. Effectivement, il y a des mécanismes, mais toute la question aujourd'hui est d'avoir des pratiques qui vont être vérifiées par des essais, notamment par des essais cliniques, pour démontrer et non pas uniquement montrer. Et je vous renvoie à votre excellente émission de jeudi dernier, Ali, mais en disant que les pratiques, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va une fois uniquement à la mer et qu'on peut avoir un bénéfice santé. Ouais. Bien sûr qu'on stimule les mécanismes, mais la question c'est quelle dose, quel contenu, dans quel contexte et supervisé par quelle personne pour avoir véritablement ces bénéfices et être sûr que les personnes n'ont pas aussi des risques. On a évoqué là que des questions autour des bénéfices, mais si on parle de thérapeutique, on doit également parler de risques et il peut y avoir des risques également qu'il faut mentionner.
Alors beaucoup de messages ce matin, Isabelle qui nous écrit « Rivière, torrent, mer, piscine et même douche, c'est une grande caresse, une détente, un lieu de sérénité et de bonheur absolu pour moi. Tandis que France nous dit « Quant à moi, tous les matins c'est comme une drogue, je rentre dans ma douche et je me rince à l'eau glacée, j'adore et je me sens en pleine forme après. Nicole, je ne suis bien que dans l'eau, je vais à l'aquagym 2 fois par semaine, je fais des cures thermales chaque fois que je le peux. Ce sont les seuls endroits où j'oublie mes douleurs articulaires et mon poids. Qu'est-ce que ça vous inspire, Georges Vigarello ?
Écoutez, je crois qu'on en a, parlé. Moi, ce qui me marque le plus, c'est cette tendance à s'éprouver. Le mot bien revient. N'oublions jamais que le terme stress, par exemple, c'est un terme qui surgit dans les années 20. Du XXe siècle. Or, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il faut détendre. Et je trouve que tout ce dont nous parlons aujourd'hui renvoie vers des pratiques de détente, de relâchement, et surtout, des pratiques qui consistent à s'éprouver autrement. Ça me paraît le grand mot d'aujourd'hui.
Pascal Derme.
Je voudrais juste dire deux mots sur la plongée thérapeutique, parce que c'est vraiment une étude clinique qui a été menée sur des rescapés des attentats de Paris, avec trois groupes en Guadeloupe, un qui faisait du sport lambda, un qui faisait de la plongée, un qui restait à Paris, les pauvres, tirés au sort. Et ceux qui faisaient du sport lambda étaient bien. Bon voilà, ceux qui ont fait la plongée thérapeutique avec la respiration, la plongée, la méditation sous l'eau, sont passés sous l'échelle de stress post-traumatique, tous. Tout le groupe. Donc c'est une étude qui a été menée par le professeur Coulanges à Marseille. Et donc là, on commence vraiment à rentrer dans le dur, si je puis dire, par rapport à ces études cliniques sur la santé bleue.
Bonjour Arthur Guérin.
Bonjour.
Vous nous appelez spontanément, vous êtes champion du monde d'apnée et vous voulez réagir à notre émission, merci à vous.
Oui, bah, je voulais apporter des petits compléments d'information. Moi je suis donc apnéiste, voilà, plusieurs fois champion du monde et je voulais apporter mon témoignage quant au bienfait du contact avec l'élément aquatique. Il y a vraiment notamment dans la pratique de l'apnée, qui est vraiment un sport thérapie pour le coup. Je vois qu'on vient de parler de l'étude de Mathieu Coulanges à l'instant. Étude qui a été réalisée avec des plongeurs bouteilles, mais c'est vrai qu'il y a il y aurait, je pense, quelque chose aussi à étudier avec la pratique de l'apnée qui est vraiment une fusion avec l'élément. En tout cas, par rapport au sujet de l'émission, moi je l'ai vraiment constaté sur moi, la pratique de ce sport, autant par le travail de respiration que le contact avec l'élément, a vraiment apporté un plus dans mon équilibre, que ce soit mon équilibre physique, mais aussi psycho-émotionnel, quoi.
Arthur Guérin, vous parlez de fusion et Pascal Derme écrit dans son livre que l'expérience de l'eau procure une relation spontanée et immédiate au monde, que l'eau permet d'entrer en résonance avec le monde et on peut le dire avec l'univers. Vous ressentez ce sentiment océanique, cet élan mystique et de fusion avec un grand tout semblable à une vague dans l'océan, hein, ce sentiment océanique si bien décrit par l'écrivain Romain Rolland.
Bien sûr, surtout en apnée, hein, la pesanteur, le silence, la sensation, le contact avec l'élément. En plus de ça, le cerveau passe automatiquement dans un mode vraiment particulier quand on est sous la surface sans respirer, pour le coup. On le voit par exemple avec les bébés nageurs, hein, qui arrêtent de respirer spontanément quand on les met sous l'eau, alors que les bébés nageurs n'ont pas le recul pour comprendre qu'on va les mettre sous l'eau et qu'il faut arrêter de respirer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très archaïque et de très ancré en nous, qui fait que quand on se met sous l'eau sans respirer, il y a vraiment un réflexe spontané, très ancré en nous, qui nous met dans un mode différent et qui est très très bénéfique. Alors en plus de ça, actuellement, j'ai découvert d'autres choses fascinantes dans mon contact avec l'élément, parce que je prépare un record du monde d'apnée sous glace, sans combinaison, en distance sous la glace. Et donc j'ai découvert les multiples vertus de l'eau froide dont on a un petit peu parlé, mais qui sont vraiment vraiment fascinantes, hein, sur le renforcement du système immunitaire, etc. Il y a plein de choses à découvrir.
Merci beaucoup Arthur Guérin de nous avoir spontanément appelé. Pascal Derme, un mot de conclusion très rapide.
Je voudrais juste rappeler qu'il n'y a pas de santé bleue sans qualité, sans santé de la mer. C'est très important de le dire.
Docteur Pérez-Iscar.
Juste, si c'est pas démontré, mais juste montré, quand ça fait du bien, faut y aller.
Merci à tous, merci Georges Vigarello d'être venu. Merci professeur Grégory Nino, docteur Marie Pérez-Iscar, merci. Et merci beaucoup Pascal Derme. Je recommande vraiment votre livre qui est passionnant, La Santé Bleue. C'est publié chez Massot Éditions. Demain, comment repérer les manipulateurs?